incorrigible hiver, incorrigible hiver. Soudain c'est une autre chanson, des ruisseaux naissent de partout, la neige glisse des maisons, les enfants pleurent leurs igloos. Et bientôt dans la ville en fête, inutile que tu t'entêtes, on brûlera ton effigie, ainsi la mort, ainsi la vie. Incorrigible hiver, incorrigible hiver, incorrigible hiver, incorrigible hiver. Ville en fête, inutile que tu t'entêtes, on brûlera ton effigie, ainsi la mort, ainsi la vie. Incorrigible hiver, incorrigible hiver, incorrigible hiver, incorrigible hiver.
Jacques Verrière est un jeune compositeur qui écrit de très belles chansons qui sont chantées par Yves Montand, entre autres Mon pote le gitan.
Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire assis près du poêle au fond du bistrot. Ce gars-là, une roulotte se promène dans sa tête, et quand elle se balade, jamais elle s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant, et dans notre bistrot, personne ne le comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare, une guitare crasseuse qui vous colle le noir. Quand il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête, les joueurs de belote s'arrêtent plus rien, on a mal en dedans. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant. Mon pote le gitan, un jour est parti, et Dieu seul sait tout, il balade sa vie. Ce type-là, c'est un grand musicien, moi j'en étais sûr et je le sentais bien. Le taulier m'a dit qu'on est venu le chercher, un grand musicien le voulait l'engager. Mon pote le gitan, il a refusé. Un haussement d'épaule et il s'est taillé. J'ai eu l'impression de perdre un ami, pourtant ce gars-là ne m'avait jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte, et dans ma petite tête j'ai du rêve qui trotte. La drôle de musique en moi est restée. Quand je pense à lui, il m'arrive de chanter. Toi, sacré gitan, qui sentais le cafard. Au fond, ta musique était pleine d'espoir. Love.
temps. Parce qu'on n'a pas le choix des armes. Parce que c'est taf ou la tour. Parce qu'on y passe tous. Putain, putain. Déjà 8 piges. Depuis le premier opus, un coup d'œil par-dessus l'époque, paye ton vertige. 2005, santé l'essence, 2013, attends l'incendie. Les tempêtes, les cernes, creusent en temps de crise. Mental en dents de scie, les taux se resserrent. Des prolétaires bâtissent des taux, leurs gosses y tapent des allers-retours. Et y'a plus de taf dans la zone. Dresser les uns contre les autres, on pète à tous les étages. Un sale temps pour les sales pauvres. Les sans-papes et les musulmans, les manouches, tous les foncés de peau. La même rengaine, les mêmes conquêtes sur le bon vieux thème, d'un qui la faute. Pareil que c'est le printemps des faces, c'est l'heure d'arroser leur drapeau. La France des pavillons, les nazis ont la délation 2.0. Les fils de pétain s'affichent, y'a v'là les bleds dans ce pays de l'âge qu'ont des salaires de Vichy, putain. À qui profite la crise et qui la paie, hein. Bah comme d'hab, les miens et les miennes, à gaspiller leurs plus belles années, à grappiller les miettes. Ce monde carbure à notre sang et nos peines. On obéit la peur au bide et on se fait taxer de parasites par des vampires obèses. Des pompiers pyromanes qui osent encore t'appeler à l'aide et tâchent de nous faire passer pour des clochards aux poches pleines porcheries. Dans le fond, je piche toujours pas comment ils font, mais j'ai une piste, on est isolé dans nos douleurs, la colère sous muselière. Un qui va me s'immole au pôle emploi, ça traumatise que la guichetière. Il pleut des corps à France Télécom, on t'harcèle pour un salaire et t'incarcère pour que dalle. Nos couleurs nous divisent, nos paires de couilles, nos ovaires. Des idoles, des tiekas, des histoires de terre-terre. C'est pas les porcs que ça bouleverse, hein. Quand les gamins s'entretuent pour des business ou des bouts de terre, combien de temps ça peut tenir à bout de nerf? À bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Il paraît que c'est la crise, frérot, fais un effort. Tout le monde est attendu au front, les pauvres joueront la chair à canon comme d'hab. En attendant, ça tourne en rond et fait les 100 pas comme en promenade. Guette la fin du monde en direct aux 20h. Marde, baisser la tête, encaisser les coups et serrer la ceinture. Chaque mois, la même galère, le même couplet. Interdit bancaire, CB bloqué, on connaît ça par cœur. Ok. Passons, toujours la même merde, façon RSA, rien de s'arrange. Rester assis là, j'ai passé l'âge. À la cave, besoin des allocs, mais ça parle mal. Tu mords la langue et serres les poings à devenir barge. Rien qu'on pense sur le fil, entre carnage et calmant. C'est la dalle, il faut bien grailler, non. Les plus chanceux tiennent la caisse à Little. Quand d'autres y montent au braco et se font des sauts pour 2-3 billets de sang. Le bide en bib et de seum, on tire nos destins, la courte peine. Les portes sont fermées, l'ascenseur social en panne. Tous coincés au sous-sol. Voilà, compter son bel et fonce crède ou à pointer à l'usine. Plus ça avance, plus on est seul, plus on se divise. Les peines et les années s'accumulent au fond des casiers. Alors c'est ça, bon qu'à se préparer au pire, tout en esquivant la chute. Payer le baveux, éviter le cachot. Du petit confort à la liberté, tout s'achète. Même une partie de la paix sociale, son monnaie en cash et en petit sachet. Alors ça part au quart de tour. La marmaille se rebelle, attaque un quart de tour. Et c'était la tribune présidentielle. Pendant que les actes, tu parles de parachutes dorés, de tubes planqués en Suisse. En bas des ports tortures, dans l'ombre des cellules assises. Bah ouais, faut qu'on s'unisse, comme les Wolves de Plaskesi. Fenerbahçe, Beşiktaş, à la guerre de classe comme à la guerre. Même si c'est le pot de terre et le pot de fer. Combien de temps ça peut tenir à bout de nerf? À bouffer de la merde, à étouffer les presses sous des kilos de neige. Combien de temps ça peut tenir? 2013, y'a plus le temps.
Crève la tôle, vit l'instant.
Majeur en l'air face à l'état
de ceux qui se lèvent en insultant.
Radio Libertaire, oui, nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est sur à bout de nerfs de singes des rues que commence aujourd'hui l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, eh bien, comme souvent, un patchwork de brèves tirées de la presse. Voilà, une petite revue de presse, pas du tout exhaustive, autour de la psychiatrie et un peu aussi autour de, on va dire, les sciences, les médicaments, les sciences du bien-être aussi, et la génétique. Mais bien sûr, aussi des infos spécifiquement autour de la psychiatrie. Alors, je commence par un article de West France du 23 octobre 2023 sur les médicaments. Humex Actifed, 5 versions sur ces médicaments anti-rhume en vente libre, mais déconseillées. Ne les utilisez plus, recommande l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM. Les médicaments oraux qui visent à désencombrer le nez en vente libre présentent un risque, certes très faible, de provoquer des infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux. Pour l'agence, la balance bénéfice-risque impose d'éviter ces produits tels que Actifed Rhume, Humex Rhume ou encore Nurofen Rhume. Voilà un article de Solène Agnès. Dans un avis publié ce dimanche 22 octobre 2023, le gendarme français du médicament recommande d'éviter les médicaments en vente libre contre les symptômes du rhume. En cas de rhume, évitez les médicaments vasoconstricteurs par voie orale, écrit l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM. Ne les utilisez plus, demande même aux Français la patronne de l'ANSM, Christelle Ratigné-Carbonneil, dans Le Parisien. Le Collège de la médecine générale, le Conseil national professionnel, DORL, l'Ordre national des pharmaciens, l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France s'associent à cette recommandation. Alors l'article vous en dit plus sur ces médicaments en 5 questions. 1. De quels médicaments parle-t-on ? La ANSM vise les médicaments vasoconstricteurs, pseudoéphédrine, en vente libre et destinés à soulager les symptômes du rhume en désencombrant le nez. Ils se prennent sous forme orale et sont à distinguer des sprays nasaux soumis, eux, à une prescription médicale. Voici la liste des 8 médicaments que l'ANSM recommande d'éviter. Actifed rhume jour et nuit, dolirhume, paracétamol et pseudoéphédrine, dolirhume pro, paracétamol, pseudoéphédrine et doxylamine, humex rhume, nurofen rhume, rinadvil rhume, ibuprofène, pseudoéphédrine, rinadvil CAPS, rhume, ibuprofène, pseudoéphédrine. Bon. Deuxième question. Pourquoi l'ANSM les déconseille-t-elle ? Des infarctus du myocarde et des accidents vasculaires cérébraux peuvent se produire après utilisation de ces médicaments, rapporte l'ANSM ce dimanche. Le risque d'effet indésirable est aggravé en cas d'utilisation simultanée d'un vasoconstricteur oral, comprimé, et d'un vasoconstricteur à usage local, spray nasal, ajoute l'agence. Selon Le Parisien, de 2012 à 2018, la base nationale de pharmacologie fait état de 307 cas graves. Et quelques 11 millions de boîtes étaient vendues en 2011. Ces ventes sont tombées à 3 millions en 2021. Le risque est très faible, mais ces événements peuvent se produire, quelle que soit la dose et la durée du traitement, poursuit l'ANSM qui conclut. La gravité de ces accidents et la persistance des cas associés au caractère non indispensable des vasoconstricteurs conduisent l'ANSM à déconseiller leur utilisation. Troisième question, est-ce nouveau ? Ces dernières années, et notamment ces derniers mois, le message a plusieurs fois été passé. La NSM elle-même rappelait, il y a quelques mois, sur un ton moins ferme qu'aujourd'hui, que l'utilisation des vasoconstricteurs expose à des risques. Depuis la fin 2017, la publicité de ces médicaments contenant de la pseudoéphédrine est interdite. De son côté, l'Agence européenne des médicaments, EMA, a débuté en février la réévaluation de la balance bénéfice-risque de ces produits, alors que de nombreux autres pays européens les vendent encore. 4. Que répondent les laboratoires ? Cette communication est prématurée alors même que les conclusions scientifiques du comité de pharmacovigilance européen n'ont pas encore été livrées. Se défendent ce lundi les laboratoires, représentés par l'association NERS. Selon eux, il y a eu uniquement 18 cas de syndrome d'encéphalopathie réversible postérieure ou de syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible en 16 ans en Europe. Parmi ces 18 cas, deux peuvent être directement associés à la molécule, selon les laboratoires. Comment faire sans ces médicaments ? Cinquième et dernière question. Le rhume guérit spontanément en 7 à 10 jours, rappelle l'ANSM, qui recommande aux malades d'humidifier l'intérieur du nez avec des solutions de lavage adaptées, sérum physiologique, spray d'eau thermale ou d'eau de mer, de boire suffisamment, dormir la tête surélevée et de maintenir une atmosphère fraîche, 18-20 degrés, et aérer régulièrement les pièces. Fin de l'article. Alors voilà, on entre dans le monde merveilleux de la science avec un titre ici issu de sciencecritique.fr, un article du 20 janvier 2023. Le forçage génétique a un pouvoir de domestication de la totalité du vivant. La recherche en génie génétique explose ces dernières années. L'un de ses derniers avatars, encore largement méconnu, le forçage génétique, passionne et inquiète par ses potentielles répercussions sociales, biologiques, militaires et commerciales. Dans le premier rapport international sur le forçage génétique, trois groupes de scientifiques dressent un état des lieux de cette technologie. Le forçage génétique impose une attention urgente, note leur rapport, qui, en conclusion, ouvre des pistes pour s'opposer à son développement. La technologie du forçage génétique avance à grands pas. Encore largement méconnue du grand public, elle promet de pouvoir éradiquer des populations de moustiques porteurs de maladies, la dengue, la malaria ou le virus Zikal, etc. De programmer la disparition de rongeurs, le rat par exemple, ou de modifier des plantes agricoles afin que toute descendance résiste aux pesticides. Les ambitions et les promesses du forçage génétique sont considérables, suscitant un grand enthousiasme auprès des scientifiques et des politiciens. Pour Stéphane Foucard, journaliste au Monde, le forçage génétique est un peu au généticien ce que la nitroglycérine est à l'artificier. D'aucuns pointent les conséquences imprévisibles de cette technologie sur les écosystèmes, les potentiels monopoles commerciaux et son utilisation à des fins militaires. Dans un rapport détaillé publié en mai 2019, trois groupes de scientifiques européens se sont joints pour dresser un état des lieux de cette nouvelle technique et appellent de leur vœu son strict encadrement. Alors, les scientifiques suisses critiquent le réseau européen des scientifiques pour la responsabilité sociale et environnementale et l'association des scientifiques allemands pour la responsabilité et la soutenabilité des sciences sont ces trois groupe qui ont rédigé ce rapport. publié donc en mai 2019. Qu'est-ce que le forçage génétique ? Branche nouvelle du génie génétique, le forçage ou guidage génétique, gene drive en anglais, est une technique qui permet pour tout organisme génétiquement modifié, OGM, ayant une reproduction sexuée, d'imposer des modifications génétiques à l'intégralité de la descendance de la population concernée, contournant ainsi les lois classiques de la reproduction naturelle définies par Gregor Mendel. La différence entre un organisme génétiquement modifié et un organisme génétiquement forcé est donc de taille. Dans le cas des OGM, qui utilisent des techniques de transgénèse et de mutagénèse, la transmission entre générations des modifications génétiques ne s'effectue que de façon limitée. La modification tend à avoir 50% de chance, entre guillemets, d'être transmise à la génération suivante. Il en va tout autrement avec le forçage génétique. En théorie, ce dernier peut imposer durablement et de manière irréversible à toute la descendance la modification souhaitée de l'organisme. Cette technique a été rendue possible par la mise au point en 2012 d'un ciseau génétique dénommé CRISPR, CRISPR-Cas9, élaboré par la généticienne française Emmanuelle Charpentier et son équipe à l'aide de la biologiste états-unienne Jennifer Doudna. Il permet d'éditer une partie ciblée du génome, endonucléase, avec une précision et une simplicité jamais atteintes auparavant. Le but central de cette nouvelle technologie est de favoriser l'héritage d'un gène particulier et d'en augmenter très rapidement sa prévalence dans une population ciblée d'insectes, d'animaux ou de végétaux. Le forçage génétique pourrait mener à la disparition de certaines espèces en altérant, par exemple, leur faculté de reproduction. En théorie, si 10 individus génétiquement modifiés et possédant une cassette d'ADN sont introduits dans une population naturelle de 100 000 individus, alors en moyenne, plus de 99% des individus seront porteurs de la cassette Gene Drive au bout de seulement 12 à 15 générations, avertissent la biologiste Virginie Orgozozo et le philosophe Baptiste Morisot. Deuxième point d'importance, alors que les techniques classiques pour les OGM ne s'applique qu'aux espèces domestiquées en laboratoire, le forçage génétique est aussi effectif pour les espèces sauvages. Virginie Orgozozo et Baptiste Morisot mettent en garde. Il s'agit donc ici, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, d'un pouvoir de domestication de la totalité du vivant ayant une reproduction sexuée. Aujourd'hui, plusieurs expériences d'introduction d'animaux OGM sont en cours d'étude et parfois en phase d'expérimentation. La première en date est de juillet 2019, lorsque l'entreprise britannique Oxitec organise un lâcher de moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso, un premier pas avant l'introduction d'organismes génétiquement modifiés. Depuis, l'entreprise cherche à renouveler l'expérience à une échelle plus large. En avril 2021, elle organise la dissémination de 750 millions de moustiques génétiquement modifiés dans l'archipel des Keys en Floride, aux États-Unis. En mars 2022, la firme de biotechnologie annonce préparer un lâcher de 2 milliards de moustiques dans un périmètre encore plus vaste de Floride et en Californie. Une expérience qui a soulevé des inquiétudes d'ampleur du côté de certains généticiens. Un premier rapport international qui soulève de nombreuses questions. Enjeux biologiques, sociaux, commerciaux, militaires, éthiques, le forçage génétique soulève de nombreuses interrogations fondamentales. Le rapport sur le forçage génétique remis au Gene Drive Symposium en mai 2019 est le premier rapport écrit par un groupe international de 12 chercheurs, biologistes, philosophes, juristes, etc. sur la question. Dans le résumé du rapport, les chercheurs commencent par pointer les nombreuses zones d'ombre entourant la technologie du forçage génétique. Il y a un manque criant de connaissances sur la complexité des paramètres des milieux de vie naturels, écrivent-ils. Les organismes génétiquement forcés pourraient avoir des effets inattendus sur les espèces ciblées, les écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine. d'autant plus inquiétant que cette puissante technologie n'a pas prouvé jusqu'à présent qu'elle pouvait être réversible ou confinable. Et pour cause, la diffusion et la résistance sont leur raison d'être, ajoutent les chercheurs. Ces interrogations ont été soulevées lors de la Convention sur la diversité biologique en 2016 à Cancun, Mexique. L'Assemblée avait alors refusé de signer un moratoire pour arrêter les expériences de diffusion dans l'environnement d'organismes génétiquement forcés, moratoire notamment porté par l'association ETC Group. Les causes sous-jacentes des problèmes que le forçage génétique est censé résoudre ont souvent été créées par des pratiques insoutenables qui pourraient être soit abandonnées, soit remplacées par des moyens moins dangereux, peut-on lire dans le rapport. En guise d'exemple, les chercheurs évoquent la simplification biologique et génétique due aux pratiques industrielles de l'agriculture moderne qui a notamment détruit l'équilibre entre les ravageurs et leurs prédateurs naturels. Aujourd'hui, le forçage génétique apparaît comme un moyen technique conséquent pour faire disparaître les ravageurs détruisant les cultures agricoles, bien que leur multiplication soit le fruit des techniques agricoles, biologiques et génétiques modernes. Les chercheurs pointent ici le problème de la fuite en avant technologique et de son auto-engendrement. Fuite dans laquelle des technologies pallient des problèmes posés par la technologie elle-même. Il souligne aussi la nécessité de sortir de cette inflation technicienne en optant, dans le cas de l'agriculture, pour des systèmes davantage basés sur l'agroécologie et non plus sur des moyens sursophistiqués dont les conséquences pourraient être plus graves que les problèmes à résoudre. Autre point cardinal, l'ambivalence de l'utilisation du forçage génétique, la recherche et développement du Gene Drive pour des usages civils et militaires ne peuvent être séparés. Ce double usage, peut-on lire, impose une attention urgente. En 2016, une fuite de documents provenant de deux universités états-uniennes révélait que l'Agence américaine des projets de recherche avancée pour la défense aurait débloqué 100 millions de dollars pour soutenir des recherches sur le forçage génétique. La DARPA, l'Agence américaine des projets de recherche avancée pour la défense, deviendrait alors le plus important financeur mondial de cette biotechnologie. Ces révélations confirment les craintes d'un usage militaire du forçage génétique. Au-delà des nombreux problèmes techniques du Gene Drive et de ses potentielles utilisations militaires, le rapport note également l'absence de débat public à propos de cette technologie. L'analyse des premières expériences d'introduction de moustiques génétiquement modifiés fait ressortir une sérieuse limitation du processus d'obtention du consentement éclairé des populations des pays concernés. Les premières expériences s'imposant, les populations doivent-elles s'adapter ? Quelle régulation pour le forçage génétique ? Il y a un besoin urgent d'une réglementation internationale efficace et juridiquement contraignante à propos des OGF. Notent les auteurs du rapport. Les scientifiques font remarquer que les règles de sécurité établies pour les OGM conventionnels ne sont plus suffisantes pour se garder, des potentiels risques des organismes génétiquement forcés. Selon eux, la Convention sur la diversité biologique rattachée aux Nations Unies demeure la meilleure instance de régulation internationale. Pourtant, les États-Unis, principal acteur dans le champ du forçage génétique, ne l'a pas ratifié. Le rapport avance en outre que la sagesse d'une stricte application du principe de précaution pourrait être notre meilleur guide lorsqu'on a à faire face à ce genre de technologie. Une stricte application de ce principe signifierait donc un moratoire sur les expériences et l'utilisation du forçage génétique. Je ne lis pas tout parce que après ce sont des technicités juridiques, mais c'est pour un peu. Nous avons trouvé cet article qui montre une tendance à vouloir faire de nos gènes un objet d'expérimentation. Enfin, de nos gènes en tant qu'êtres vivants. Hein. Sans distinction aucune entre les espèces. Allez, un petit un petit article de Femina.fr, version Femina, psychologie, conseil psycho. Vous ne trouvez plus de sens à votre travail, vous souffrez peut-être de brown-out. Brown-out. Il arrive qu'on ne trouve plus de sens à son travail et qu'on trouve que les missions demandées sont plus absurdes les unes que les autres. Ce triste phénomène se nomme le brown-out et peut conduire jusqu'à la dépression s'il est soigné trop tard. Nous connaissons tous le burn-out, ce syndrome d'épuisement professionnel, malheureusement très répandu. De plus en plus de scientifiques parlent aujourd'hui de son cousin, le brown-out, qui découle d'un manque de sens dans notre travail et de l'absurdité des tâches à accomplir. Qu'est-ce que le brown-out ? Dans le lexique de l'électricité, un brown-out signifie une baisse de tension. Et lorsque nous le subissons, nous, humains, c'est exactement ce qu'il se passe. Un manque de stress dans notre travail, une absurdité des missions données, un ennui professionnel, sont autant de critères qui peuvent mener jusqu'au brown-out. La psychologue Amélia Lobé la définit, à femme actuelle, comme un malaise du salarié lié à une incompréhension de plus en plus profonde de son travail et au sentiment que son job ne sert à rien. Dans certains cas, ce phénomène se déclenche après un événement précis au sein de l'entreprise ou en raison d'un projet impossible à mener, par exemple. Mais la plupart du temps, le brown-out arrive en raison d'une forme d'usure de l'homme au travail, de l'homme dans la répétition des tâches, comme l'indiquait le docteur François Baumann à l'édition du soir de West France en 2022. Ce trouble lié au travail impacte alors directement la santé mentale de ceux qui en souffrent et peut dans certains cas mener jusqu'à la dépression. Parmi les symptômes, on retrouve une démotivation extrême, un désinvestissement du salarié, une perte de ses illusions et de ses repères, de la fatigue, de l'irritabilité et ou des signes dépressifs. Liste Amélia Lobé. Autant de choses négatives qui peuvent aussi entraîner une baisse de l'estime de soi, surtout si la personne accorde beaucoup d'importance à son travail. Le salarié se sent dévalorisé et a alors l'impression que son travail est non seulement inutile, mais qu'il étouffe en plus de son potentiel. Il finit par sombrer dans l'absurdité des tâches, à se désintéresser de son travail, voire tomber dans une dépression, précisait le syndicat Force Ouvrière Énergie et Mines à West France. Le brown-out qui intervient en raison de l'absurdité des tâches à accomplir est d'ailleurs très proche du burn-out qui découle d'un excès de travail, mais également du bore-out qui se traduit par un manque d'activité. Bore, c'est par rapport à l'ennui, quand on traduit de l'anglais. Dans tous les cas, ces troubles sont liés au travail et à un mal-être qui en découle et la frontière entre ces différentes appellations est de plus en plus fine. Alors, qui peut souffrir de brown-out ? Techniquement, il n'existe pas de profil ni de profession type. N'importe qui peut un jour être confronté au brown-out. Cependant, les experts s'accorderont à dire que certains secteurs professionnels sont plus touchés que d'autres, tels que le secteur tertiaire ou le travail de bureau. En effet, les salariés semblent épuisés par la répétition des tâches ou par les réunions à rallonge et dénués d'intérêt. De plus en plus d'entreprises aiment organiser des réunions interminables afin de discuter de la possibilité d'un projet, alors que cela aurait pu se régler en quelques minutes, explique la spécialiste. Et d'ajouter, le fait de ne pas comprendre pourquoi, pour qui et à quelle fin on effectue une tâche peut également mener à un sentiment d'aliénation et de lassitude. Il devient alors difficile de trouver un sens à son job et de s'y épanouir. Comment s'en sortir ? La première solution serait évidemment de démissionner pour trouver un nouveau boulot, mais cette option n'est malheureusement pas toujours envisageable. Pour moins souffrir dans votre travail, si vous ne pouvez pas en changer, essayez de trouver au moins une chose de positive dans votre journée au bureau. Un déjeuner avec un collègue, la pause café du matin, votre entreprise installée dans un beau quartier. Aussi, efforcez-vous de vous créer une vie personnelle pleine de sens, ou du moins active et dédiée à ce que vous aimez. D'après Amélia Lobé, cela permet de redonner une certaine légitimité à votre vie professionnelle. De plus, cela vous offre des moments agréables et que vous estimez. Enfin, rappelez-vous pourquoi vous avez accepté ce job. Un salaire confortable, de nombreux jours de congé, des horaires flexibles. Ça finit par un point d'interrogation. Voilà, c'est donc un article du 2 octobre 2023. Donc le sentiment certainement appuyé par des faits objectifs de perte de sens ou que le travail que l'on fait est complètement dénué d'intérêt est ici une maladie mentale. Alors que nous dirions plutôt que justement cette prise de conscience de ce sentiment d'absurdité par les salariés témoignerait plutôt d'une bonne santé intellectuelle. Alors, pour paraphraser, en fait, et pour répondre un peu à cet article sur le brownout, un court éditorial d'une petite brochure intitulée Éco-syndical. C'est une publication voilà du syndicat des syndicats CNT de la région parisienne éco-syndical de novembre 2022 le numéro 5 son éditorial dans lequel il est évoqué la souffrance au travail. Alors je vais vous le lire rapidement et puis nous ferons une pause avec une chanson. Alors, voilà, éditorial, la souffrance au travail. Atomiser les salariés pour mieux les exploiter, la multiplication des contrats précaires et atypiques, l'ubérisation, le télétravail, en progression de plus de 30% en 2021 avec le Covid, l'intérim, etc., sont autant de manières de réorganiser la production des biens et services, secteur privé et public confondu, pour répondre à l'exigence d'accumulation sans limite ni fin du capital qui est sa raison d'être, son ADN. Ces méthodes ont comme point commun d'isoler les salariés. En l'absence de liens sociaux directs au sein d'un collectif de travail, on est fragilisé, manipulable et corvéable à merci. La souffrance qui en résulte prend alors la forme d'un syndrome d'épuisement professionnel par surcharge, burn-out, ou par ennui, bore-out, voire d'une dépression pouvant conduire au suicide. Si pour le capital, la société n'existe pas, il n'y a que des individus, comme le disait Margaret Thatcher, alors... vivre devient un combat permanent de tous contre tous et contre soi-même. La souffrance au travail qui en résulte, conjuguée à la peur de perdre son emploi, pose à la fois les problèmes du contenu, du sens et du rapport social que le travail produit et reproduit chaque jour, soit le rapport social capitaliste. Mais elle pose avant tout la question de la construction d'un autre rapport social basé sur l'entraide, la mutualité et la solidarité pour un autre futur où les besoins humains seront définis collectivement.
sortie, tenir un verre à découpler. Peur d'exister, peur de manquer, confort minimum. Monsieur Dupont, Madame Tyran, la patrie des braves gens. Et moi je vis dans le silence, inutile subversion. Pervertir ce monde dont je ne suis que l'agence. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas voulu, c'est ainsi je suis, je l'ai, j'assume. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas voulu, c'est ainsi je suis, je l'ai, j'assume. Je n'ai pas de place, mon salut n'est pas dans la masse. Associé à la suite du négatif, selon la vie générale. Castinomane, indésirable, non assimilé, on s'est une menace. Castinomane, indésirable, non assimilé, on s'est une menace. Je suis pas de gêne. Nous sommes la plaie.
Voilà, c'était Pathogène qui chantait Matricule 000. Non, c'est Matricule 000 qui chantait Pathogène. Voilà. Eh bien, c'est toujours l'entonnoir sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. L'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et donc, nous allons vous donner des infos concernant la psychiatrie. Hôpital psychiatrique, Romain Dupuis transféré de Cadillac à Bordeaux dans une unité fermée plus souple. Donc c'est un article de sudouest.fr, Gironde Bordeaux, du 13 octobre 2023, par Arnaud Dejean. L'auteur des meurtres de deux soignantes à Pau en décembre 2004 a quitté l'unité pour malades difficiles de Cadillac. Il est désormais hospitalisé à Charles Perrins à Bordeaux. Comme révélé par Sud-Ouest, Romain Dupuis a quitté l'unité pour maladies difficiles, UMD, de Cadillac début octobre pour rejoindre l'hôpital psychiatrique de Charles Perrins à Bordeaux. Le transfert de l'auteur des meurtres de deux soignantes à l'hôpital de psychiatrique de Pau en décembre 2004 fait suite à une décision de justice. La cour d'appel de Bordeaux a ordonné son placement dans un service de psychiatrie générale plus souple en hospitalisation complète, ce que Romain Dupuis demandait depuis plusieurs années. Atteint d'un trouble psychotique de nature schizophrénique, déclaré irresponsable pénalement pour le double meurtre de Pau. Romain Dupuis, 39 ans, était interné depuis 18 ans à l'UMD de Cadillac en Gironde. Depuis 2018, les médecins considèrent que son état est stabilisé et qu'il ne relève plus d'une unité pour malades difficiles. Le parquet général de Bordeaux ayant décidé fin septembre de ne pas former de pourvoi en cassation, Romain Dupuis a pu quitter l'unité ultra sécurisée de Cadillac pour rejoindre un autre hôpital psychiatrique classique de la région. Le centre hospitalier Charles Perrins n'a pas encore répondu à nos sollicitations, mais l'avocate de Romain Dupuis livre quelques informations essentielles sur ses conditions de prise en charge. Son avocate. Il est hospitalisé selon les procédures de droit commun des soins sans consentement. Il est en unité fermée, il ne peut pas sortir de l'enceinte de l'hôpital. Les conditions sont moins carcérales qu'en UMD. Il a les clés de sa chambre, un téléphone portable, il peut appeler sa famille et ses amis, regarder la télévision, emprunter des livres, énumère maître Hélène Lequin. Romain Dupuis est inscrit dans une maison départementale pour les personnes handicapées, MDPH. Il peut désormais envisager son avenir à moyen et long terme. Il compte suivre une formation à distance. Ses domaines d'intérêt, musique, art, psychologie, apiculture, poursuit son avocate. En cas d'évolution favorable, Romain Dupuis pourrait envisager un assouplissement de son régime d'hospitalisation dans les prochains mois ou années, en cas de feu vert des psychiatres, de la justice et de la préfecture. Voilà, et en même temps, enfin peu de temps après ce transfert, ou pendant ou avant, je ne sais plus, a été opérée la fermeture du service Moreau de l'unité pour malades difficiles. À Bordeaux. Voilà, donc, et une autre info concernant la psychiatrie en elle-même. Une plongée dans le service où sont soignés les hospitalisés d'office au CHU de Montpellier. Alors, c'est un article du Midi Libre du 11 octobre 2023. À l'occasion des semaines d'information sur la santé mentale du 9 au 22 octobre, le docteur Mathieu Lacambre nous ouvre les portes de l'unité de soins intensifs en psychiatrie, donc unité de soins intensifs, USIP, du CHU de Montpellier, où sont pris en charge les hospitalisés d'office. La folie, c'est le pendant de l'humanité. Le docteur Mathieu Lacambre, qui coordonne l'unité de soins intensifs en psychiatrie du CHU de Montpellier, en a fait son métier. C'est dans son service que les personnes soignées, sans leur consentement, sont accueillies selon un protocole extrêmement encadré. Également appelé hospitalisé d'office, ces patients requièrent une prise en charge bien particulière car ils représentent un danger pour autrui, soi-même ou un trouble à l'ordre public. En l'absence d'un tiers, ce sont les autorités qui sont en première ligne. Les soins sur décision du représentant de l'État, plus nombreux. Interpellés sur la voie publique, dans la majeure partie des cas, ils sont emmenés au commissariat où l'élu d'astreinte signe un arrêté municipal en vue d'une hospitalisation d'office. Si la personne se trouve aux urgences, c'est un arrêté préfectoral qui est pris. Le nombre de ces cas de soins sur décision du représentant de l'État, SDRE, est en hausse ces dernières années. Ils étaient 70 en 2020, 90 en 2022. Le nombre de patients sous écrou incarcérés à Villeneuve-lès-Maguelone suit aussi une courbe ascendante, 76 en 2019 contre 100 en 2022. Pas de profil type du psychotique. Des chiffres qui en disent long sur la souffrance psychique accentuée, notamment par la précarité. 20 à 30% des gens à la rue sont psychotiques. L'exclusion accentue le risque de décompensation. Les comorbidités telles que l'alcool et les stupéfiants alimentent le processus. Il n'existe pas de profil type, assure le docteur Lacambre. Vous pouvez être en bonne santé physique et décompensé. Il y a moins de mineurs isolés que de demandeurs d'asile qu'à Paris. Donc, sous-entendu à Montpellier. En juin dernier, une jeune femme de 27 ans s'en prenait à un couple de malvoyants rue Maguelone. Déclarée irresponsable pénalement, elle était victime de délires de persécution au moment des faits. En septembre, un Sénégalais de 22 ans poignardait un septuagénaire rue Boyer sans raison apparente. Cet été, encore un homme en fauteuil roulant exhibait son pistolet à la terrasse d'un café sur la Comédie, prenant à partie un client. En mai, une jeune femme de 23 ans mettait le feu dans son appartement. Trois personnes étaient hospitalisées. Une fois en garde à vue, elle était hospitalisée d'office. Les exemples de ce genre sont pléthores. Schizophrène, paranoïaque, paraphrénique. Les pathologies, en revanche, sont clairement identifiées. On retrouve des schizophrènes, des paranoïaques, des paraphréniques et des psychotiques victimes d'hallucinations chroniques avec perte de contrôle du sujet. À titre d'exemple, on dénombre 700 000 schizophrènes en France, dont seulement les deux tiers sont diagnostiqués. Alors, c'est difficile de comprendre comment des schizophrènes non diagnostiqués sont reconnaissables en tant que schizophrènes, puisqu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Mais bon, je poursuis. Nous, on gère la crise, explique le docteur Lacambre. Les protocoles varient en fonction du degré de violence. En cas de refus, les soins peuvent être admis par injection. Le recours à la contention est autorisé. Le processus est fortement encadré. Raymond Depardon en avait tiré un documentaire intitulé « 12 jours ». C'est à ce moment que la justice décide du maintien en détention ou de la remise en liberté. Le patient rencontre un juge. Pour autant, la durée moyenne du séjour dans ce service, qui comprend 15 places, s'élève en moyenne à 2 mois. À la sortie, les patients sont orientés en fonction de leur situation, soit en unité pour malades difficiles, UMD, soit en clinique, soit en prison. S'il est judiciarisé, le patient peut aller en détention provisoire le temps d'être jugé. Il peut être déclaré coupable, mais pas responsable. Il n'y a alors pas de limite pour les soins psychiatriques. En Occitanie, la seule unité hospitalière spécialement aménagée, UHSA, à Toulouse, dispose de 40 places pour toute la région. Outre la psychothérapie et le volet social, la prise régulière de son traitement en centre discontinuité est ce qui compte le plus, explique le docteur Lacambre. Autre levier fondamental, le dépistage pour organiser un parcours de soins cohérent. Qu'est-ce que guérir ? Interroge-t-il. C'est se donner de nouvelles normes. On travaille à réduire le pire et chercher le meilleur. Des cas en hausse et un protocole strict régi par la loi, une prise en charge très encadrée. Si les soins libres demeurent la règle en psychiatrie, force est de constater que les soins sans consentement sont en hausse en France. En 2021, 95 500 personnes ont été prises en charge au moins une fois sans leur consentement, soit de plus de 5% des patients suivis en psychiatrie. Et donc si on fait le calcul, si 95 500 personnes sont 5% des patients suivis en psychiatrie, il y a donc 20 fois 95 500 personnes suivies en psychiatrie. Je poursuis. Le Code de la santé publique régit de façon stricte ce protocole. Une personne hospitalisée d'office doit présenter un état mental nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante, ou bien présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Plusieurs certificats sont établis dans les 72 premières heures de la prise en charge par plusieurs médecins psychiatres. Les décisions sont notifiées aux patients et transmises à l'Agence régionale de santé. La levée de l'hospitalisation sans le consentement du patient est également encadrée de façon stricte au-delà des 12 jours après rencontre avec un juge. Les objectifs de la feuille de route santé mentale et psychiatrie visent à réduire les pratiques de soins sans consentement, d'isolement et de contention. Mais les chiffres montrent l'inverse. Selon un état des lieux dressé à partir du recueil d'informations médicalisées en psychiatrie, RIMPE, en 2021, 5% des personnes suivies en psychiatrie et 26% de celles hospitalisées à temps plein ont été prises en charge en soins sans consentement au moins une fois dans l'année. Ce recours est l'un des plus élevés en Europe. Les mesures d'isolement augmentent et sont en fort accroissement depuis la crise sanitaire. 10 000 personnes ont été concernées par la contention mécanique en 2021, soit plus personnes hospitalisées sans consentement, soit plus de... Alors attendez, parce que là, je crois qu'il y a une petite coquille. Je relis. 10 000 personnes ont été concernées par la contention mécanique en 2021, soit plus d'une personne hospitalisée sans son consentement sur 10. Quelque chose comme ça. Donc voilà, le chiffre a disparu. Alors bon. Une attente forte des élus. Élodie Brun-Mandon, adjointe déléguée à la prévention des addictions à la ville de Montpellier, explique en quoi le Conseil local en santé mentale peut agir sur la problématique de soins sans consentement. Qu'est-ce que le Conseil local en santé mentale, acté lundi, peut apporter à la problématique des personnes soignées sans leur consentement ? D'abord, premier sujet, la formation au premier secours en santé mentale. Elle va être dispensée aux policiers municipaux. Elle leur sera utile lorsqu'ils seront confrontés à quelqu'un qui décompense sur la voie publique. Cela vaut pour les élus aussi. Ce sont les élus d'astreinte qui signent ces arrêtés d'hospitalisation d'office. Les adjoints d'astreinte se sentent très mal par rapport à ça. Le phénomène tend à se développer car la place de nombreuses personnes devrait être à l'hôpital, mais la psychiatrie se porte tellement mal dans notre pays que certains sont hospitalisés en urgence un jour et reproduisent les mêmes faits le lendemain. Cela a le don d'agacer les policiers municipaux, nationaux et les élus auxquels incombe cette lourde tâche de décider d'un internement d'office. Quand on fait le diagnostic dans le cadre du Conseil en santé mentale, une grande partie des agents de la tranquillité publique étaient très en demande sur ce sujet. Ce sera bien sûr une des thématiques fortes. Il y a un enjeu d'inclusion sociale de ces malades psychiques. La société doit casser ses représentations. La schizophrénie, par exemple, peut être traitée et les patients inclus. Il faut changer notre langage et notre regard sur ces pathologies. Fin de l'article, donc d'un article du Midi Libre du 11 octobre 2023. Nous, on gère la crise, plongés dans le service où sont soignés les hospitalisés d'office au CHU de Montpellier. Voilà, est-ce qu'on pourrait faire un commentaire sur cette situation? Eh bien, que toujours la psychiatrie n'a pas d'autres outils face à la douleur sociale, la douleur des individus dans une société difficile. Eh bien, que des outils de coercition, des outils de sécuritaires et de la rentabilité ou disons de moindres dépenses. Donc, eh bien voilà, la situation est terrible et des personnes, d'ailleurs des personnes témoignent souvent, et on aura l'occasion d'en reparler dans nos prochaines émissions, que des personnes venues en soins libres se retrouvent en soins sans consentement, à leur insu, ou sans qu'elles l'aient demandé. Cela arrive, oui. Alors, nous allons faire une autre pause avec une chanson de Walter Anis.
Beaucoup de soleil sur la plage, beaucoup de vent, beaucoup de bruit, beaucoup de gisants et d'épaves, beaucoup de mouches aussi. Beaucoup de phares, de mascarades, de maquillage désabusé, beaucoup de murs, de barricades, propriété privée. Beaucoup de murs, de barricades, propriété privée. Beaucoup de fric, beaucoup de frimes, mais pas beaucoup d'amour dans les regards. Beaucoup de fric, beaucoup de frimes, mais pas de toi sur ce trottoir, comme tu es loin ce soir. Beaucoup de paumés en goguette, beaucoup de stars de monoprix, que l'on excuse d'être bête, pour peu qu'elles soient jolies. Beaucoup de mépris par absence de savoir aligner deux mots. Mieux vaut jouer l'indifférence que passer pour un sot. Mieux vaut jouer l'indifférence que passer pour un sot. Beaucoup de fric, beaucoup de frimes, et pas beaucoup d'amour dans les regards. Beaucoup de fric, beaucoup de frimes, mais pas de toi sur ce trottoir, comme tu es loin ce soir. De rire faux qui s'étrangle lorsque vient l'addition, de faux sourires qui se marchandent, beaucoup d'amis bidons, beaucoup de verres teintés de frimes, derrière lesquels y a rien à voir que la bêtise ou la déprime. Des m'as-tu vu d'un soir, que la bêtise ou la déprime. Des m'as-tu vu d'un soir. Beaucoup de fric, beaucoup de frimes, mais pas beaucoup d'amour dans les regards. Beaucoup de fric, beaucoup de fric. frime. Je parle de toi sur ce trottoir, comme tu es loin ce soir. Je soulève un peu de poussière, la route est longue et certains soirs. Je me force à sourire au miroir pour pas faire craquer ma guitare. Je me force à sourire au miroir pour pas hurler mon désespoir. Beaucoup de fric, beaucoup de frimes, mais pas beaucoup d'amour dans les regards. Beaucoup de fric, beaucoup de frimes, mais pas de toi sur ce trottoir. Tu es loin ce soir. Beaucoup de fric, beaucoup de frimes, mais pas beaucoup d'amour dans les regards. Beaucoup de fric, beaucoup de frimes, mais pas de toi sur ce trottoir.
Voilà, c'était donc Walter Annis. Beaucoup de fric et beaucoup de frimes. Et pour ces dernières minutes de l'entonnoir, je peux vous lire un extrait de Pour une psychiatrie indisciplinée de Olivier Brisson, un partisan de la psychothérapie institutionnelle. Hein. Voilà, j'annonce la couleur. Un extrait donc d'un de ses chapitres, le chapitre intitulé Contrer la pratique désaffectée. On trouve dans les services toujours plus de professionnels qui tiennent mordicus au port de la blouse. Là où, fut une période pas si lointaine, les soignants luttaient pour s'en débarrasser parce qu'elle faisait barrière à la relation. Dernièrement, une jeune infirmière en psychiatrie s'est vue primée pour son mémoire. Selon elle, pour tous les paramédicaux que j'ai rencontrés, la blouse blanche est un outil de soin à part entière. À elle seule, elle installe la relation soignant-soigné. C'est un outil identitaire important. Puis, reprenant des paroles de soignant, quand j'enfile ma blouse, je ne me permets pas tout. Je représente des valeurs, un code, un établissement. L'attitude, le langage, la gestuelle changent. Elle nous permet d'entrer dans notre rôle. C'est presque un costume de scène. Elle est synonyme de compétence, de savoir professionnel. Fin de citation. Enfiler le costume ou l'uniforme, c'est un peu sortir de soi. On met à distance ses affects personnels et on entre en représentation. On représente l'institution. On anesthésie ses perceptions propres et on accorde ses interventions aux arbitrages institutionnels. D'abord par engagement et souscription au service, puis par convention et habitude. Voilà. Eh bien, c'est sur ces mots que se termine l'émission L'Entonnoir cette semaine. Nous vous disons à bientôt.
Rien n'est plus honteux ni plus révoltant que votre morale en matière de bézouille. Votre viens ici que je te surveille les couilles. On est des bêtes, vain Dieu qu'on se le dise, et pas des anges, des dieux ou des marquises. Encore que les marquises, ça se mignote, ça se fait en douce rigoler la pelote. Et que les anges, ça se prend par les ailes, vite un petit coup entre deux arcs-en-ciel. Et que les dieux mélangés aux déesses laissent pas aux chiens leur portion de caresse. Érotico-pornographiquement, au Moyen-Âge on est assurément
dès qu'on parle de cul, c'est la panique. Regards sournois et sourires sardoniques. On en cause même au dossier de l'écran. Ce qui prouve bien que c'est pas pour les enfants. Les enfants qui s'en foutent et qui se touchent dans leur dortoir, qui se font du bouche à bouche pendant que le curé sous sa soutane tristement bande en priant Saint-Antoine de lui pardonner ce péché mortel. Imaginez la Vierge en jarretelle, érotico-pornographiquement. La liberté commence exactement par le droit de baiser comme on respire, tout seul à deux, à douze ou même pire. La liberté, on l'a mise en maison. Faut se cacher pour trousser un jupon. Honteusement, comme si on assassine. Au nom du père, du fils et de la voisine. Les religions petites, oh quelle merde! Ton pucelage, faut pas que tu le perdes. Avant le grand coup de queue légitime, dans ta pauvre chatte qui sent la naphtaline, érotico-pornographiquement, on fornique à ma place sur les écrans, dans les bouquins, les revues, les digestes. Il y a les 32 positions et le reste. Créneau, c'est comme si j'allais au resto et qu'on m'apporte une jolie tête de veau que d'autres hument et dégustent et consomment. Je me sentirais un peu frustré en somme. Moi, si je me paye le cinéma porno, je veux qu'on m'offre en légitime cadeau une petite gâterie, une fantaisie intime. Bref, qu'à la fin du film, on me termine.